en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jacques Pogam.
Dans votre carrière, quel a été jusqu'à présent, à vos yeux, Pierre Rosenberg, le moment essentiel? Je dis bien le moment.
Oui, c'est une question difficile, évidemment. Tout le monde répond un peu à côté de la plaque. Pour moi, le moment essentiel a été un télégramme que j'ai reçu à Yale, où j'étais Faucian Fellow, d'André Malraux, m'annonçant ma nomination au Louvre. Et à l'époque, les nominations ne se faisaient pas comme de nos jours. De nos jours, il y a un concours, on entre dans une école qui vous rétribue. De mon temps, il y avait également un concours. Nous étions élèves d'une grande école, section supérieure de l'école du Louvre. Mais il n'y avait absolument aucune garantie de poste, et bien sûr, encore moins garantie de salaire. Alors, pendant de très nombreuses années, ça n'a pas été mon cas, heureusement, chargé de mission. Ça s'appelait en fait attaché libre. C'est assez drôle comme image. On était pendant 10 ans, 15 ans, attaché libre. Ça voulait dire qu'on n'était pas payé. Donc moi j'ai été payé, j'étais donc nommé assez jeune au Louvre, j'étais donc en Amérique et j'ai reçu ce télégramme.
Oui, parce que c'était en 62, c'est ça?
Oh oui, même la fin de 61.
Oui, c'est ça. Je vais pas.
Et donc j'ai reçu ce télégramme qui m'a rempli de joie et d'autant plus que je ne m'y attendais pas dans la mesure où à l'époque le département des peintures du Louvre, qui était le poste, l'endroit où je souhaitais entrée où j'ai fait l'essentiel de ma carrière, avait pour patron Germain Bazin, qui était un grand spécialiste de l'architecture, et notamment de l'architecture brésilienne, et qui était un personnage difficile, mais un grand savant, dans un certain sens. Il ne m'aimait pas. Et il se trouvait que Malraux n'aimait pas Bazin. Alors, pour lui faire de la peine, il m'a nommé. Voyez comment sont les hasards des choses. Je crois que c'était vraiment pour lui faire de la peine. Et j'y suis resté pendant très longtemps, puisque je n'ai pas quitté le département des peintures, jusqu'à ma nomination comme président directeur du Louvre.
Alors, vous évoquiez donc votre chevaux à Yale, mais en réalité, vous aviez fait aussi des études de droit.
J'ai fait également des études
alors,
de droit.
Alors, qu'est-ce qui vous a fait pencher d'un côté plus que... Parce que votre père était un grand avocat.
Mon père était avocat, et il pensait que c'était plus sûr, en effet, d'hériter d'un cabinet d'avocat que d'entrer dans ce métier compliqué. À l'époque, les postes étaient rares, ils le sont encore autant aujourd'hui, et un peu aléatoire. En plus, est-ce que j'avais les dons nécessaires pour devenir conservateur? Voilà, donc j'ai mené de front les études de droit qui m'ont mené jusqu'à la licence Nouveau Régime. Et puis, en effet, cette entrée au Louvre, donc à la fin de 61 ou au début de 62. À l'époque, déjà, j'avais déjà fait une exposition. Donc, j'avais déjà fait une exposition sur celui qui est resté mon peintre favori. J'espère que nous en parlerons plus tard, Poussin.
Oui, bien sûr, bien sûr. Mais on dit que votre mère a joué un rôle essentiel dans votre choix.
Oui, c'est vrai. Oui, absolument. Mes parents ont quitté l'Allemagne nazie en 1933. Je suis né quelques années plus tard à Paris. Mes parents étaient francophiles et francophones, mais évidemment émigrés, donc avec des premières années assez difficiles à Paris, dans ces années de l'avant-guerre. Les étrangers avaient des difficultés à trouver du travail, à se faire naturaliser. Voilà, donc je suis un fils de l'immigration, comme on dit, sans que j'en tire aucune gloire ni aucun complexe. Et puis donc ma mère était la fille d'un très célèbre gynécologue, Nassauer, qui a beaucoup écrit et sur lequel on écrit régulièrement des thèses, qui valaient à ma mère, qui est morte il y a peu de temps, à l'âge de 101 ans, qui valaient à ma mère des visites régulières d'étudiants en médecine qui venaient la voir pour justement lui demander des souvenirs de son père, donc ce grand gynécologue, qui était, je crois, il était plus ou moins accoucheur officiel de la cour de Russie. Et il racontait, c'est un vague souvenir, que pour aller en Russie, on partait sans argent. Mais qu'à chaque étape, il y avait un banquier qui était là pour vous donner de l'argent que vous souhaitiez. On partait sans argent parce que les routes n'étaient pas suffisamment sûres et qu'on craignait d'être dévalisé en cours de route. Comme ça, on ne pouvait pas être dévalisé.
Et elle donc, vous a poussé donc
Donc mon grand-père était un peu collectionneur de tableaux et elle-même m'a entraîné dans les musées très jeune. Vous savez que là aussi, c'est un sujet que nous aborderons tout à l'heure. Nous sommes dans un pays, dans une civilisation où malheureusement, l'école ne remplit pas son... On y reviendra, j'en suis sûr. En tout cas, c'est à mes parents que je dois... J'ose pas dire ma vocation, le mot est un peu fort, mais enfin, mon amour des musées et mon amour des œuvres d'art. Et je me souviens très bien, en effet, des premières visites que j'ai faites au Louvre, de mes premiers achats, une gravure de l'Ursa. Vous voyez, l'Ursa, bien modeste gravure, je le reconnais, et d'un artiste un peu oublié aujourd'hui. Et en tout cas, c'est à eux que je dois incontestablement mon goût des œuvres d'art.
Alors, vous êtes resté 39 ans au Louvre.
Oui, c'est pas mal.
Vous avez été président du Louvre pendant 7 ans.
Oui.
Et vous avez écrit un livre qui s'intitule « Le dictionnaire amoureux du Louvre ».
Oui.
39 ans, on peut dire quand même que c'est une longue passion.
C'est incontestable. J'y ai fait toute ma carrière depuis, je vous dis... En fait, j'ai même passé plus de 39 ans au Louvre, parce qu'avant d'être nommé, j'y avais déjà fait un peu mes premières heures. Non, pour dire les choses un peu différemment, j'ai eu cette chance unique, cette chance extraordinaire d'avoir connu un Louvre, si j'ose dire médiéval, c'était pas tout à fait le mot, mais un Louvre où il n'y avait pas encore l'électricité dans toute une partie du Louvre, un Louvre où il n'y avait pas de toilettes, par exemple, où il n'y avait pas de service de vente. Enfin, c'est un Louvre dont on peut pas s'imaginer le retard qu'il avait par rapport à la plupart des grands musées, non seulement américains, mais aussi européens. Et puis, d'avoir vécu cette transformation qui a fait de ce musée, on le dit d'une manière un peu pompeuse, je le dis plus discrètement, le premier musée du monde. Donc d'avoir d'abord un peu vécu cette transformation, puis participer, puis diriger cette transformation, c'est quand même une expérience assez amusante.
Avec le recul, pour vous, quel a été votre chantier le plus important lorsque vous étiez président du Louvre ?
Oh, c'était évidemment les grandes salles de peinture du second étage de la cour carrée, mais c'est en fait... j'étais pas président au moment de l'inauguration de la pyramide, mais j'ai ensuite ouvert tous les chantiers avec les différents présidents de la République de l'époque.
Alors, grâce à vous, un certain nombre d'achats très importants ont été réalisés. Quel est celui qui vous laisse le plus grand souvenir ?
Est-ce que ça je peux répondre. C'est un tableau d'Antonello da Messine, qui représente donc un Christ. Le Louvre ne possédait d'Antonio da Messine qu'un seul tableau jusqu'alors, qui est le célèbre Condottiere, célèbre à cause de la petite cicatrice, et qui d'ailleurs fait la couverture d'un ouvrage de jeunesse qui vient de paraître de Pérec, qui est un grand, grand chef-d'œuvre. Mais nous n'avions pas de tableau religieux de ce peintre. Il y en avait un en Angleterre. L'Angleterre a un système de protection de son patrimoine assez impressionnant. Et elle possède une commission devant laquelle il faut plaider le tableau que l'on souhaite acquérir et convaincre ceux qui font partie de la commission de vous donner la permission de l'exporter. Alors, nous avions l'argent pour l'acheter, bien entendu. Alors, c'est une situation un peu bizarre. Je parlerai du tableau plus tard, si vous le voulez. Puisque d'un côté, vous êtes obligé de dire que vous avez envie du tableau, sinon vous n'iriez pas devant la commission. Et que d'autre part, il n'est pas si bien que ça, parce que s'il était vraiment si bien, pourquoi vous le laisserait-on exporter ? Alors, on est dans une position un peu ambiguë. Alors, je crois qu'en fait, je le dis avec une certaine admiration, nous avons obtenu ce certificat, cette licence, pour deux raisons. D'une part parce que la National Gallery de Londres possède 5 Antonello da Messine et que nous n'avons que 2. Alors c'est la première raison, bien sûr. Et la seconde raison, je crois, c'était un geste de bonne volonté de la part de l'Angleterre et de ses responsables culturels à l'égard de la France. Un geste de dire, ce tableau-là, c'est un chef-d'œuvre, nous le savons, mais s'il a sa place dans un musée, c'est au Louvre. Donc, vous voyez.
Oui, c'est beau.
Le tout m'a laissé un assez grand souvenir et le tableau est devenu un des plus populaires. Mais vous me permettez d'en parler d'un second ?
Oui, oui.
Ou est-ce que c'est interdit ?
Non, le Fragonard ?
Oui,
non,
voilà.
Je me disais bien. Racontez.
Oh, le verrou, le verrou.
Ouais, c'est ça, hein.
C'est un tableau, c'est très curieux.
Vous êtes battu, là.
Ah oui, ça n'a pas été facile.
Il y en a un autre aussi, le Latour.
Oui, ça c'était, moins se battre. Ah oui, la souscription. La souscription m'a beaucoup amusé, si vous voulez. J'en ai gardé un souvenir.
Oui, pour le Saint-Jean-Baptiste, hein, c'est ça.
Ah, le Saint-Jean-Baptiste aussi, ça c'est un autre tableau que j'ai beaucoup aimé. Le Saint-Jean-Baptiste, c'était un tableau qui passait en vente à l'hôtel Drouot, dans une salle sans catalogue, mis sur table, je ne sais pas, 300 euros ou quelque chose comme ça. Le commissaire-priseur n'y avait rien vu, il n'y avait pas d'expert. Enfin, le tableau est maintenant dans la ville natale de Georges Latour, à Vic-sur-Seine. Moi, j'étais là. Je vais à l'hôtel, j'y étais ce matin.
C'est un éblouissement, non ?
Oui, c'est une grande surprise. Je vais à l'hôtel 2-3 fois par semaine depuis 40 ans. J'y étais ce matin. J'y vais parce que ça m'amuse. J'y vais parce que ce sont mes vacances. J'y vais parce que c'est l'occasion quand même d'y faire des découvertes pour les musées. Et un jour, un temps, Lévi-Strauss fréquentait beaucoup l'hôtel Drouot. Je connaissais un petit peu, naturellement, qui ne connaissait pas Claude Lévi-Strauss. Et je lui ai demandé, est-ce que vous allez écrire un triste tropique sur le... il m'a répondu, j'y vais, ce sont mes vacances, ce sont ma distraction quotidienne.
Parce que la souscription, c'était sur le Saint-Thomas.
Alors, était sur le Saint-Thomas. Alors là, le problème était un peu difficile. Le Saint-Thomas n'avait pas été exposé en 1972 à la grande rétrospective Georges Latour. Alors, j'étais un peu le commissaire avec Jacques Tuillier, qui vient hélas de nous quitter. Et c'était le seul tableau qui manquait à l'exposition, car il appartenait à une châtelaine de la Sarthe, qui avait en horreur tout ce qui était historien d'art et qui avait promis au premier qui s'approcherait trop près de son château de lâcher ses chiens et de tirer des coups de fusil sur lui. Alors ça nous avait fait peur, nous n'avions pas tenté notre chance et nous n'avions pas le tableau. Et puis quelques années plus tard, elle est morte et elle avait légué son tableau et sa fortune à l'Ordre de Malte. Et l'Ordre de Malte, évidemment, n'a pas vocation à garder ce tableau. Donc nous avons lancé cette souscription qui a bien marché parce que, en fait, ceux qui donnaient, il y en a eu quand même un très grand nombre, avait l'impression à la fois de donner un ordre charitable, l'Ordre de Malte, et au Louvre. C'était ça notre chance. Notre chance était d'avoir...
Concordance.
Voilà, il y avait deux raisons de nous aider dans cet achat, et ça, c'est pour ça que ça a bien marché.
Je ne vous ai pas laissé le temps de parler du verrou.
C'est vrai, c'est juste. Alors le verrou, c'est très curieux, j'avais commencé ma phrase. Aujourd'hui, tout le monde a l'impression que ce tableau est au Louvre depuis toujours. Et puis en plus, il y a eu ce miracle de ce pendant très curieux, cette adoration des bergers, qui en vérité est le contraire au premier regard, mais pas tout à fait quand on y réfléchit, du verrou, qui était le pendant du tableau au XVIIIe siècle, du temps de Fragonard, commandé par la même personne à Fragonard, et qui miraculeusement, alors que les deux tableaux avaient été séparés dès le XVIIIe siècle, est venu rejoindre le verrou. Donc nous avons maintenant les deux tableaux côte à côte, et tout le monde a l'impression qu'ils sont là depuis Fragonard. Et en vérité, le tableau a été à l'époque très mal reçu. Pourquoi ? Non pas tellement parce que le sujet est un peu leste, bien sûr, ce monsieur qui pousse ou qui ne pousse pas un verrou, cette dame qui se laisse faire ou ne se laisse pas faire, toute l'ambiguïté est là, enfin une ambiguïté toute relative. Mais enfin, elle existe et elle permet de rêver, elle permet, et c'est ça la grandeur des grands artistes et de Fragonard, de permettre de rêver. C'est tout simplement parce que le tableau est peint dans une manière à laquelle on n'était pas habitué. C'est un Fragonard. Non pas empâté, non pas emporté, non pas exubérant, c'est un Fragonard plus lisse, plus porcelainé, plus déjà néoclassique, si j'ose utiliser ce mot qui ne convient pas. Enfin, et par conséquent, même les gens de bonne volonté, et il y avait dans cette polémique des gens de mauvaise volonté, de mauvaise intention, même les gens de bonne volonté n'acceptaient que difficilement que Fragonard ait pu évoluer et qu'il ait pu avoir une seconde carrière, une évolution, comme tous les grands peintres en ont, que ce soit Picasso qui lui a beaucoup évolué, ou que ce soit qui vous voulez, tous les grands peintres évoluent. Et cette seconde, ce moment un peu plus tardif de la carrière de Fragonard, à l'époque, ne convenait pas à l'image que l'on se faisait du peintre. Et par conséquent, les résistances, je répète, de ceux qui étaient de bonne volonté, ils s'expliquaient par là. Aujourd'hui, c'est très curieux, c'est tout naturel, ce nouveau style de Fragonard, cette évolution de sa pensée et de son exécution, est comprise par tout le monde et par tous les visiteurs. Donc, voilà en quelques années, une évolution, une transformation qui est très intéressante.
Est-ce qu'il n'est pas le symbole même de l'esprit culturel français, Fragonard ? Est-ce que c'est vrai que vous avez dit de lui qu'il représentait l'essence parfumée du XVIIIe siècle?
C'est vrai ou c'est faux, ça ?
Je
ne sais pas si c'est vrai, c'est possible que je dise ça. C'est pas très bien.
Bon, ça veut dire quelque chose?
Non. Ça ne veut pas dire quelque chose. Ceci dit, Fragonard...
Mais vous adorez Fragonard.
J'aime beaucoup Fragonard, j'ai travaillé
Pourquoi ? Parce que c'est le bonheur, c'est le bonheur simple, c'est la beauté.
Oui, et puis c'est une nouvelle manière de concevoir la peinture. C'est-à-dire, jusqu'à lui, et il est le premier à mon avis, on n'avait pas besoin d'admirer l'exécution d'un tableau. Fragonard montre un peu ce qu'il sait faire. Il y a une virtuosité chez lui. Il y a le tableau et puis il y a aussi « regardez ce que je sais faire ». Et évidemment, cette manière de concevoir la peinture aura un immense avenir. C'est tout l'impressionnisme. Et là, oui, j'aime beaucoup Fragonard, mais vous n'avez pas tout à fait raison. J'aime beaucoup les œuvres de Fragonard, les dessins et les tableaux. J'ai fait une exposition sur lui, je me suis occupé en fait de pas mal de choses de lui. L'homme n'était pas sympathique. L'homme était étroit, petit.
C'est étonnant ça, hein, quand l'œuvre dépasse l'homme.
Alors que, mais l'œuvre et l'homme sont très souvent loin de l'autre. Il n'était pas sympathique, au contraire de son contemporain, Hubert Robert, qui est le charme même, l'homme le plus que j'aurais voulu connaître. Mais je sais que d'autres spécialistes de Fragonard, je ne suis pas seul, ne partagent pas cette... Je comprends mal ses relations avec Marguerite Gérard, je comprends mal le procès qu'il a opposé à son mécène, je comprends mal toutes ces petites chipoteries, les mésaventures qu'il a eues avec la Dubarry, je les comprends mal aussi. Enfin, tout ça, si vous voulez, j'aurais aimé connaître naturellement Poussin, ça va sans dire, mais même Chardin, qui est au fond mon vrai grand amour pour le XVIIIe siècle. J'aurais aimé le connaître, j'aurais aimé connaître Watteau.
Et Boucher un peu aussi, non ? Non, moins ?
Boucher, oui, moins. Peut-être, oui. Oui, j'aurais rien eu contre. Oui, c'était un personnage, un grand personnage. Une sorte de Rubens, enfin. Et puis, qui a fait beaucoup pour l'art français. Au fond, l'art français du XVIIIe, dans le monde, c'est cette image de cet art français qui est une image, comme toujours, un peu réductrice. Cette image, c'est Boucher qui l'a forgée. Mais Boucher, pourquoi pas, mais je vous dis, Chardin, oui, Watteau peut-être, Boucher en troisième, Fragonard, pas tellement, et David encore moins.
Et 17e Poussin.
Et 17e Poussin. Et pas la tour, qui était une sale bête. Alors ça, vraiment, on le sait, là, dans ce cas-là, il n'y a pas de doute à avoir.
Pour continuer à découvrir Pierre Rosenberg, Canal Academy vous invite à consulter l'intégralité de l'émission L'Essentiel avec Pierre Rosenberg de l'Académie française. Journaliste Jacques Pogam pose 7 questions essentielles à ses invités académiciens. Retrouvez-les dans nos émissions En habit vert à la rubrique L'Essentiel.